Thierry, La disparition de Joseph Mengele, un film filmé quasiment comme un film noir ou un thriller, consacré à un homme qui fut un des grands barbares de la solution finale, qui était le médecin d'Auschwitz, l'ange de la mort. Et je voulais savoir comment allait l'acteur extraordinaire, incandescent, Auguste Diehl, qui joue pendant 2h15 Joseph Mengele. Est-ce qu'il s'en est remis? Car son interprétation est phénoménale.
En fait, tout d'abord, vous imaginez bien que ça fait quand même maintenant un certain temps qu'on a tourné ce film, et puis ensuite, en fait, on vient juste de finir une série de spectacles Hamlet Fantôme au Théâtre du Châtelet,
à Paris,
oui, effectivement, et où justement Auguste jouait avec beaucoup de succès. Donc là, revenir vers le film de Mengele, c'est un petit peu lourd pour lui, un peu difficile, je le comprends évidemment, parce que pour l'instant il est toujours dans Hamlet, mais c'est un grand artiste avec lequel collaborer est juste un grand plaisir, et donc j'espère qu'aujourd'hui le public pourra véritablement profiter et s'enthousiasmer devant son travail, parce que je pense que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est rare d'avoir des rôles masculins de ce niveau-là.
Et je crois que c'est un artiste qui est votre âme frère. Alors, pour évoquer le mal, la banalité du mal et ce que fut Joseph Mengele, vous avez le profil idéal, on vous retrouve juste après.
Kirill Serebrennikov, dans vos films, vous évoquez de plus en plus le parcours de personnages ayant existé. S'inspirer de biographies permet-il d'explorer la face obscure de l'histoire et des hommes? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 2022, avec La femme de Tchaïkovski, vous racontez la passion douloureuse d'Antonina Miliukova pour le compositeur russe homosexuel Piotr Ilitch Tchaïkovski. Lorsque le film sort, cela vous permet de comparer les mœurs de la société soviétique du 19e avec celles d'aujourd'hui.
Du temps de Tchaïkovski, l'approche vers l'homosexualité était beaucoup plus tolérante et ils n'étaient pas aussi stigmatisés qu'ils le sont aujourd'hui.
En 2024, avec Limonov la balade, adaptation du livre d'Emmanuel Carrère, vous narrez la vie d'Edouard Limonov, le poète et écrivain qui, à ses débuts dans les années 70, jouissait d'une aura d'artiste rebelle avant de créer un parti politique extrémiste et ultranationaliste.
Лимонов был всегда антилиберальных взглядов, поэтому если говорить о политическом аспекте, то между нами нет ничего общего.
Dans votre film, on suit la montée de la pensée impériale russe dans l'esprit de Limonov. Dans son destin, on peut puiser ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ajoutez-vous. En adaptant désormais le livre d'Olivier Guez, La disparition de Joseph Mengele, vous évoquez l'exil du nazi. Surnommé l'ange de la mort, il a mené des expériences barbares sur les prisonniers lorsqu'il officiait comme médecin dans le camp d'Auschwitz. Pendant son exil en Argentine, au Paraguay et au Brésil entre 1949 et sa mort en 1979, Mengele a vécu dans la peur d'être reconnu et arrêté.
Je ne peux plus nach Günzburg zurückkommen. Warum nicht? Weil es zu gefährlich ist. Die Stadt ist klein, die Leute reden, jeder kennt mich, es ist einfach zu großes Risiko.
Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la question de l'avenir des criminels de guerre et de la vengeance se pose. À propos de Mengele, mort sans avoir été jugé, vous précisez, son châtiment, c'est une vie horrible, une peur et une haine qui détruit son âme.
Une question, vous êtes russe, vous êtes à moitié juif par votre père, vous êtes à moitié ukrainien par votre mère. Est-ce qu'on peut dire donc que rien de ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, le stalinisme et la solution finale ne vous est étranger et que vous étiez d'une certaine façon l'esprit, l'homme, la conscience idéale pour porter à l'écran le bouquin d'Olivier Guez sur la disparition de Joseph Mengele?
Sans nul doute, je vais vous dire autrement. Quand on m'a proposé, que les producteurs m'ont proposé d'adapter ce nouveau roman, il venait juste de sortir à l'époque, pour moi, j'avais vraiment une question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on m'a choisi moi? Je n'arrivais pas vraiment à comprendre ça. D'ailleurs, en revanche, c'était particulièrement intéressant parce que c'est un vrai défi qui m'était lancé, mais c'était avant que la guerre ne soit lancée, avant l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et quand la guerre a commencé, quand ce malheur, cette tragédie ont commencé, tout ce qui se passait dans le monde et cette tension,
которая существовала,
qui était présente partout, ça m'a donné une meilleure compréhension peut-être de ce que devait être ce film. Et donc je ne peux pas dire que la guerre m'a aidé, bien évidemment, mais la tension autour, la pression, ce qui est arrivé aux gens, savoir ce qu'était un criminel de guerre aujourd'hui, qui vient de ressurgir. Il y a des gens effectivement qui sont des criminels de guerre aujourd'hui. Maintenant, j'ai véritablement mieux compris comment le film devait être.
Un extrait du film de Kirill Serebrennikov.
Mama hat immer gesagt, dass du ein guter Schauspieler bist.
Halt dein dreckiges Maul.
Hast du Menschen ermordet? Hast du Menschen gefoltert? Sie ohne Narkose aufgeschnitten? Hast du Experimente an Kindern durchgeführt? Neugeborene lebendig verbrannt?
Ce film, c'est aussi une réponse aux négationnistes. Vous en avez rencontré encore récemment qui remettaient en cause l'existence de la Shoah, vous le dites dans des interviews.
En fait, je n'ai pas véritablement moi-même rencontré des gens qui mettent en doute et qui posent cette question de l'Holocauste et de la Shoah. Au contraire, en revanche, j'ai rencontré des familles dont les parents avaient été tués à Auschwitz. Moi, il y a une famille que je connais, il ne reste plus que 4 personnes sur les 62 qui avaient été envoyées en camp. Et donc, moi, c'était important pour moi de savoir comment est-ce qu'ils allaient apprécier ce que j'étais en train de faire, parce que je me disais que ça pouvait toujours être prêté à controverse, justement, comment est-ce qu'on montre à Auschwitz, comment on montre les victimes. C'était important pour moi de savoir comment est-ce qu'ils réagiraient. Et ils m'ont dit qu'effectivement, c'était important que ce film soit vu par les gens. Pour moi, ça a été un grand soutien parce que moi, je me posais véritablement des questions. Je doutais. Avant ces scènes-là, dont on me parle souvent et sur lesquelles on me pose des questions, qui sont toutes ces scènes qui sont à Auschwitz, et qui sont en couleur, à la différence du reste du film. Je vais vous dire en fait que ces scènes étaient, pour moi, étaient capitales, et que tous les gens qui ont tourné dans ces scènes, ils savent très bien en fait qui ils représentaient à l'écran, parce que c'était des vrais prisonniers qui étaient morts à Auschwitz, et pour nous c'était une grande responsabilité.
Ne pas oublier, c'est aussi parce que vous avez posé des questions à votre père, vous-même, lui avez demandé un jour dans son existence pourquoi étais-tu stalinien.
Vous savez, en fait, toute ma vie, s'est passée avec une phrase que j'ai entendue dans mon passé soviétique. Cela ne doit pas se reproduire. Parce que la guerre, c'est le mal le plus grand qui soit, donc aucune propagande. Tout ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, oui, il peut y avoir la guerre parce qu'il pourrait y avoir. On peut éventuellement tuer des gens si derrière il y a une idée particulière. Pour moi, c'est absolument pas possible. On ne peut pas tuer les gens, point final. Pour moi, c'est le plus grand mal qui puisse être. Et donc, notre mission à nous, c'est d'arrêter toutes les guerres et d'arrêter de tuer les gens. Et c'est le sens de ce film. Il y a également la pensée que les criminels de guerre, ceux qui ont reçu du plaisir ou même qui ont fait de la guerre le sens de leur vie, doivent être punis, même si ce n'est pas via un tribunal, que ce soit La Haye ou Nuremberg, il doit y avoir un tribunal intérieur, dans leur fort intérieur, qui doit les atteindre.
Une conscience, en somme. On va évoquer avec vous, Kirill Serebrennikov, ce qui se passe en Russie aujourd'hui, où les films français rencontre un succès absolument incroyable.
Oui, l'année dernière, plus d'un million de Russes ont vu le film Le Comte de Monte Cristo produit par Dimitri Rassam. 1 million aussi ont vu Dracula de Luc Besson. Et le film du moment à voir actuellement en Russie, c'est La Venue de l'Avenir de Cédric Clapiche. Alors si ces films français s'exportent si bien, il y en a 73 au total en 2024, deuxième marché à l'export après l'Allemagne. C'est d'une part parce que Hollywood a décidé de déserter les écrans russes dès le début du conflit en 2022, mais c'est d'autre part parce que les sanctions européennes n'interdisent pas de vendre des biens audiovisuels à la Russie. Et d'ailleurs, le président de l'Association des exportateurs de films en France est très clair sur ce point. Voilà ce qu'il dit. Il faut dissocier politique, argent et culture. Nous sommes là pour la circulation de la culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la culture doit continuer à s'échanger, quel que soit le contexte politique?
Je pense que les ponts culturels doivent toujours être préservés parce que ces ponts-là, lorsque les guerres se terminent et que les régimes seront changés, remplacés, pourquoi est-ce que les gens pourront se reparler? Ce sera via ces passerelles culturelles. Et donc notre mission, c'est véritablement de faire en sorte que les pays préserve un lien, d'où le fait que les films français particulièrement ont toujours été adorés en Russie. Toute ma jeunesse a été Louis de Funès, Pierre Richard, Fanny Ardant. C'était des artistes que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, Truffaut, Godard. Et encore beaucoup d'autres de cinéastes français qui ont formé notre amour vers le cinéma. Et moi, je ne veux pas me priver de ça parce que je pense qu'il y a des tas de Russes qui ne sont absolument pas coupables, qu'il y a des fous qui ont agressé l'Ukraine. Ces gens-là doivent continuer de recevoir un certain espoir et que c'est le cinéma qui le donne.
Vous vivez en Allemagne, à Berlin. Vous vous considérez comme un exilé définitif. C'est fini, la Russie.
Je ne peux pas de toute façon rentrer en Russie. Je suis un Européen, j'apprends le français et j'apprends également l'allemand et je travaille quasiment avec 4 langues. Je travaille dans beaucoup de villes d'Europe et pour moi c'est véritablement des opportunités formidables et je ne veux pas utiliser ce mot d'exil. En fait, je dis plutôt que c'est une nouvelle vie.
Très bien. Pudique, c'est un mot en français. Pudique, ou pour esquiver le mot. Merci infiniment, Kirill Serebrennikov.
Merci beaucoup à vous. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon film.